RCF.
Et on poursuit avec vous, Marina Copsidas, toute cette semaine sur cette question de la vie éternelle. Et on le fait à travers différents auteurs, et notamment aujourd'hui avec Irénée de Lyon, Saint Irénée de Lyon. C'est le deuxième évêque de Lyon, il a vécu au IIe siècle. C'est le premier occidental à vraiment réaliser une œuvre de théologien. C'est un père de l'Église, le pape François l'a nommé docteur de l'unité. Mais avec vous, on va s'attacher à cette question de la vie éternelle ici, et maintenant, et c'est important parce que Saint Irénée, il est sensible à la vie de la création, à la divinisation de la vie de la création. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ?
Alors, si vous permettez, je vais présenter Irénée avec le pape Benoît XVI, qui dit d'Irénée, « Irénée est avant tout un homme de foi et un pasteur. Du bon pasteur, il possède le sens de la mesure, la richesse de la doctrine, l'ardeur missionnaire. » Parce que l'œuvre de Irénée se développe parce qu'il veut contrecarrer des thèses gnostiques qui sont hérétiques, totalement hérétiques, et qui peuvent quand même mettre le monde chrétien en péril.
Oui, et alors il faut expliquer ce que c'est, ces thèses, ça considère le Christ sur uniquement un seul de ses aspects.
C'est ça. Et puis, Dieu créateur s'est trompé et a amené le mal, donc il faut le critiquer et imaginer au-dessus de Dieu un plérôme, enfin une existence métaphysique. Donc tout ça, c'est réservé en plus à des élus. Enfin, ils savent être élitistes. Mais il a une connaissance très rigoureuse parce qu'il a retrouvé les textes d'origine qu'il avait justement combattu, et on voit qu'il le fait avec énormément de rigueur. Alors la très belle parole de Irénée, qui sera après reprise par Athanase, résume tout notre sujet: la vie éternelle, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Je souligne D minuscule.
D de Dieu en minuscule.
Il y a Dieu en majuscule et nous.
Puis Dieu en minuscule. Pour comprendre cela, je vous propose qu'on écoute un petit extrait. C'est un extrait qui est tiré de ses écrits, Irénée de Lyon. On écoute le dessein bienveillant de Dieu. Comment est-ce qu'on peut s'orienter vers Dieu ? Et c'est lu par le comédien Kevin Cavalin.
Car Dieu peut tout. Vu autrefois par l'entremise de l'Esprit selon le mode prophétique, puis vu par l'entremise du Fils selon l'adoption, il sera vu encore dans le royaume des cieux selon la paternité. L'Esprit préparant d'avance l'homme pour le Fils de Dieu, le Fils le conduisant à la vie éternelle, qui résulte de la vue de Dieu pour ceux qui le voient. Car de même que ceux qui voient la lumière sont dans la lumière et participent à sa splendeur, de même ceux qui voient Dieu sont en Dieu et participent à sa splendeur. Or, vivifiante est la splendeur de Dieu. Ils auront donc part à la vie, ceux qui voient Dieu.
Très belle définition de la vie éternelle, voir Dieu. Et quand, jadis, on vous disait qu'effectivement, on ne pouvait pas voir Dieu sans mourir, c'est la révélation de Christ.
Mais on est aussi sur une ligne de crête, parce que à la fois il y a ce respect face à Dieu, l'impossibilité véritablement de le connaître et de ne pas lui prêter nos intentions, et en même temps cette possibilité d'être proche de Dieu
par le Fils et par la communion. Il ne faut pas oublier que c'est par le baptême, le renoncement au péché et au mal, que c'est par la communion. N'oublions pas, ceci est mon corps et ceci est mon sang. C'est ce que, d'ailleurs, Bertrand Vergely dit très bien, c'est que déjà, par la communion, nous participons à la vie éternelle. Et évidemment, c'est alors, nous verrons avec un autre auteur, c'est par aussi la prière.
Qu'est-ce qu'on appelle le dessein bienveillant de Dieu ? C'est une expression qui revient souvent chez Saint Irénée. Qu'est-ce que c'est le dessein bienveillant de Dieu ? D-E-2-S-E-I-N.
Oui, parce que souvent, nombre de pères de l'Église ont dramatisé ce qu'ils ont appelé la chute et l'homme déchu. C'est-à-dire que lorsque Adam et Ève se laissent tenter par Satan pour prendre le fruit défendu, c'est-à-dire s'attribuer le mérite de décider ce qui est le bien et le mal, ils sont obligés de quitter le paradis. Et ils étaient dans une vie divine auprès de Dieu, et ils retombent vraiment dans une vie proprement humaine, et donc ils ont des tuniques de peau et ils cachent leur nudité.
Et avec le Cantique des Cantiques ?
Alors là, c'est une rencontre extraordinaire entre Dieu et l'humanité, une espèce d'amour très beau et d'attirance mutuelle entre la divinité et l'humanité. Mais le dessein bienveillant, selon Irénée, c'est vraiment cette humanité qui, bien qu'étant imparfaite, c'est ça qui est très beau chez Irénée, il trouve normal que l'enfant, et qu'on parle l'humanité, un petit enfant qui est appelé à grandir, et comme il n'est pas né parfait, et il sera forcément obligé de faire des erreurs ou des péchés. Mais ce qui est important, c'est qu'il apprend justement à grandir, à écouter les commandements, aimer Dieu, aimer son prochain, et comme ça, évoluer.
C'est la sagesse de Dieu. Voilà. Avec saint Irénée, on comprend aussi que, contrairement aux philosophes de l'Antiquité, le temps ici n'est pas cyclique, il ne s'agit pas d'un éternel retour, il y a vraiment une conception dynamique de la création.
Vous avez tout à fait raison, c'est une vision cosmique, c'est-à-dire que, puisqu'il y a le projet de Dieu, la création est le projet de Dieu, donc on va vers un but, et au fond, on a l'évolution de la Terre et l'humanité aussi qui évolue. On est dans le système qui a été tellement contesté quand Darwin a parlé de l'évolution, parce que si on se contente d'une lecture littérale de la Bible, évidemment, ce n'est pas possible, mais si on a vraiment une lecture typologique, avec ce temps, j'ai fléché, on comprend que, et on part, il y a un départ et un but final.
Mais Marina Copsidas, est-ce que ça change la perception que saint Irénée propose de la vie sur Terre ?
Il la simplifie en quelque sorte. Et ce que j'aime beaucoup, c'est cette longanimité vis-à-vis de l'humanité, cette bienveillance. Parce que quand on entend à longueur de temps l'homme déchu, c'est pas très encourageant. Et alors, ce qu'il faut aussi très souligner chez Irénée, c'est cette simplification, parce que la Trinité, la Sainte Trinité, c'est un peu compliqué, il y a eu des débats, n'en parlons pas, avec le Filioque, et il résume d'une façon merveilleuse la Trinité, Dieu le Père, avec le Fils et le Saint-Esprit, qui sont les deux mains du Père qui œuvrent dans le monde, pour le Père, avec le Père. C'est superbe.
Comment est-ce que dans notre foi, on peut comprendre ou en tout cas vivre sa vie différemment par l'éclairage de saint Irénée ?
Je pense simplement en ayant la volonté effectivement de prendre en compte ses faiblesses, ses péchés, mais pas d'être dans un esprit de culpabilité permanent. Je crois que ce qui est bien, c'est le repentir, la reconnaissance, mais ne pas s'enferrer et s'enfermer dedans. Et toujours regarder le ciel et la lumière qui nous appellent.
Et puis il y a un dernier point qu'évoque saint Irénée de Lyon, c'est l'incorruptibilité. L'humanité est destinée à l'incorruptibilité, car c'est Dieu, je cite cette fois-ci, car c'est Dieu qui doit être vu un jour, et la vision de Dieu procure l'incorruptibilité, et l'incorruptibilité fait être près de Dieu. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, cette citation de saint Irénée ?
L'incorruptibilité, c'est un peu un synonyme d'immortalité. Il faut savoir aussi que c'est un phénomène physique très particulier, puisque il y a quelques très rares élus qui sont des saints, qui après leur mort, leur corps ne dépérit pas et reste entier. Et ça, c'est un phénomène, on va dire, mystique, que reconnu aussi bien chez les orthodoxes que chez les catholiques. Et il y a des cas assez récents, d'ailleurs, comme par exemple le pape Jean XXIII, je crois. Du côté orthodoxe, il y a un saint qui s'appelle Saint Alexis d'Ugine. Donc, et dans le passé, il y a eu énormément. Ils sont plusieurs centaines qui sont répertoriés. Et c'est un phénomène certainement inexplicable. Alors ça, c'est l'incorruptibilité, j'allais dire, dans sa physique, sens physique, ouais. Mais aussi dans le sens spirituel, c'est-à-dire que l'homme est élevé dans sa nature profonde, dimension la plus spirituelle, à jamais.
Voilà. Vous diriez que c'est un signe visible, finalement, de l'immortalité de l'âme.
Voilà, c'est ça.
Merci beaucoup, Marina Kobzidas. On vous retrouve demain.
Merci.